Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Métropolez-vous. Merci de votre fidélité. La commission particulière du débat public sur le projet de la troisième ligne de métro s'est officiellement terminée la semaine dernière, le samedi 17 décembre. C'est maintenant le temps des conclusions, de la rédaction de leur rapport et des recommandations pour les membres de la commission. Si la construction de cette troisième ligne de métro est un projet et un enjeu essentiel pour l'avenir des transports et des déplacements dans la métropole toulousaine, ce n'est toutefois pas le seul. Il y a d'autres questions qui se posent dans domaine et forcément d'autres projets pourraient y répondre. Ce sera le thème général de cette émission, troisième ligne de métro, transport et déplacement dans la métropole, et maintenant. Et pour faire le point et envisager l'avenir des transports dans l'agglomération toulousaine, un invité qui connaît très bien le sujet, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il s'agit de Jean-Michel Latte, premier adjoint au maire de Toulouse, vice-président de Toulouse Métropole en charge des transports et déplacements, et président de TICEO. Il a beaucoup d'autres cordes à son arc, mais j'espère qu'il ne m'en voudra pas de me contenter de cette partie de son long CV. Jean-Michel Latte, bonjour, merci pour votre présence dans ce studio. Cette connaissance et cette spécialisation dans le domaine des transports, à quoi sont-elles liées? Est-ce que c'est pas lié aussi, éventuellement, je n'en sais rien, au fait que vous soyez maître de conférence en droit privé et en droit du travail à l'université Toulousain Capitole?
Alors c'est vrai que dans les transports, le droit du travail est important, c'est un droit spécifique, mais en fait, le point de départ, c'est un peu le hasard de la vie politique. J'étais dans l'équipe de Yves Baudis, et il m'a demandé, vers 1998, de prendre la présidence de ce qui s'appelait à l'époque la SEMVAT, qui précédait TICEO, c'est l'ancien réseau toulousain. Et donc c'est à partir de là que j'ai commencé à travailler avec un directeur qui s'appelait à l'époque Francis Grasse, qui est aujourd'hui l'adjoint chargé de la culture. Voilà, et ça a été le point de départ de ma spécialisation politique dans le monde des transports.
Est-ce qu'il y a aussi une spécialisation pour vous dans le domaine du droit des transports, qui est assez complexe d'ailleurs, je crois?
Oui, il existe dans notre université, Toulousain Capitole, un M2 de droit des transports du professeur Paulin.
Un Master 2 pour ceux qui
connaissent pas. Voilà, un Master 2, déjà je commence les sigles. Et dans ce Master 2, j'ai eu à enseigner le droit du travail dans les transports, qui est un droit spécifique.
Voilà, alors avant de parler de ces transports et de cette troisième ligne de métro, de l'actualité des transports en général et des projets qui y sont liés dans la métropole, un petit tour d'abord dans l'actualité métropolitaine de la semaine, grâce à Corinne Saint-Félix et son flash d'information hebdomadaire. Métropolez-vous, l'actu. Une annonce importante pour commencer ce flash d'information, l'État, la région et la métropole aux côtés de la communauté universitaire pour un nouveau projet commun autour du label IDEX, le label d'initiative d'excellence.
Une nouvelle trajectoire en termes de gouvernance mais aussi d'intégration des compétences en matière de recherche, de délivrance des diplômes, de ressources humaines et des relations internationales qui ont été définies. Le mouvement engagé par les établissements vers une gouvernance refondée de l'Université de Toulouse doit être poursuivi. La stratégie de recherche du site a été réaffirmée. Objectif, être plus lisible dans les classements internationaux et attirer les meilleurs étudiants et enseignants. La métropole engagera au 1er septembre 2017 son pacte stratégique avec l'Université fédérale de Toulouse. Il intégrera notamment un appui à l'entrepreneuriat étudiant, vecteur important de la création d'entreprises et de l'emploi. Des mesures qui doivent être à la hauteur pour obtenir ce label déjà perdu en mai 2016, mais qui a été suivi d'une annonce de rattrapage il y a quelques mois.
Puisque vous parlez de label, Corinne, une belle réussite maintenant, Toulouse Métropole récompensée pour ses réseaux de chaleur.
Elle a reçu deux labels éco-réseau pour le réseau de chaleur urbain du Mirail de Toulouse et le réseau géothermique de Blagnac-Ritouré. Petit rappel, un réseau de chaleur, c'est un ensemble d'installations qui produisent et distribuent de la chaleur à partir d'une énergie renouvelable à plusieurs bâtiments pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Il y a 700 réseaux de chaleur existants en France.
Et en quoi ces deux réseaux se distinguent-ils sur le plan environnemental?
Le réseau de chaleur urbain du Mirail est alimenté à 99,9% par une énergie renouvelable ou de récupération issue de l'incinération des ordures ménagères. Son prix de vente de chaleur est 30% moins cher que la moyenne des réseaux en France, toute énergie confondue. Il s'étend sur plus de 30 km. Deux extensions ont été faites en 2015 pour les besoins de chaud et de froid tertiaire sur l'écoquartier de la Cartoucherie et en 2016 vers le quartier de Bagatelle. Châtel. Il permet d'éviter chaque année l'émission dans l'atmosphère de plus de 35 000 tonnes de CO2.
Alors ça, c'est pour le premier réseau, celui du Mirail. Qu'en est-il pour le second ?
Le réseau géothermique de Blagnac-Ritouré alimente en chauffage et en eau chaude sanitaire les zones d'aménagement concertées du Ritouré et du Grand Noble. Écoles, logements collectifs, bâtiments communaux et tertiaires. L'utilisation à 75% de ces énergies renouvelables avec la géothermie permet d'éviter de rejeter dans l'atmosphère 2752 tonnes de CO2, soit l'équivalent d'environ 1700 véhicules. Le prix pour les usagers est dans la moyenne nationale des réseaux de chaleur.
Et encore des récompenses, les lauréats de l'appel à projet citoyen Smart City ont été dévoilés.
Nous vous en avions parlé en octobre pour co-construire l'Open Métropole de demain. Toulouse Métropole a lancé un appel de projet pour valoriser les initiatives citoyennes et développer les actions proposées par des citoyens. Les lauréats ont été choisis selon trois catégories. Dans la première, coup d'envoi, c'est l'association Allo Bernard qui a été récompensée. Elle développe des services de proximité via une conciergerie de quartier à Arnaud Bernard. Dans la catégorie coup de pouce, ce sont les comités de quartier Saint-Cypre, quartier libre et des arènes Saint-Cyprien qui ont récolté tous les suffrages. Ils élaborent une plateforme web collaborative destinée à favoriser le dialogue et les échanges entre les associations et les habitants d'un territoire donné. Dernière catégorie, la catégorie bonnes idées. Il s'agit d'informer sur les réaménagements urbains avec des totems. Concrètement, il faut mettre en place des QR codes sur ces totems qui renvoient le visiteur vers du contenu pratique, calendrier, images, descriptifs ou encore informations et culturelles sur l'histoire du quartier. C'est d'ailleurs Toulouse Métropole qui va mettre en œuvre ce projet.
Voilà Jean-Michel Latte, bulletin d'information métropolitaine. Et dans ce bulletin d'information, il y en a une, je pense, qui vous intéresse. Et là, je vais m'adresser à l'universitaire. Ce label IDEX, là, c'est quelque chose vraiment d'important là,
pour... C'est très important, en particulier en termes d'image. On a perdu l'IDEX il y a quelques mois, en particulier parce que le processus d'intégration des universités n'était pas allé assez loin. On était plutôt dans une logique de fédération que d'intégration, et ça nous a été reproché. Alors c'est très embêtant en termes d'image parce que le label IDEX est un label important et on ne peut pas concevoir que le monde universitaire toulousain avec sa qualité soit en dehors de ce dispositif. Je sais que c'est une nouvelle qui avait impacté Jean Tirole, notre prix Nobel, et qui se bat pour relancer ce type de dispositif.
Autre information peut-être, les réseaux de chaleur là. Alors ça aussi, vous êtes premier adjoint de la ville de Toulouse.
Oui.
Je pense que vous vous y intéressez de près.
Alors l'élu qui est en charge de ce dispositif, c'est Pierre Trottmann, l'ancien directeur général des services aujourd'hui en charge des marchés, élu en charge des marchés. Et Pierre Trottmann a dit qu'il était possible de récupérer ce qu'on appelle la chaleur fatale, c'est-à-dire la chaleur qui s'évacuait toute seule de l'incinérateur. Et c'est ce qui permet d'étendre le dispositif. On a de moins en moins de pertes de chaleur et donc de plus en plus de chaleur redistribuée sur le réseau.
Bien, alors on va en revenir maintenant à notre sujet du jour et notre focus de la semaine. Troisième ligne de métro, transport et déplacement dans la métropole. Et maintenant...
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
Seconde partie de Métropole et vous avec l'invité de ce numéro, Jean-Michel Latte, premier adjoint maire de Toulouse, vice-président de Toulouse Métropole en charge des transports et déplacements et donc président de TICEO. Je le disais en introduction de l'émission, la commission particulière du débat public sur le projet de troisième ligne de métro s'est terminée la semaine dernière. Après 3 mois de réunions et d'échanges dans divers lieux de la métropole toulousaine, la population a donc été consultée et invitée à participer à toutes ces discussions autour d'un projet qui engage une grande partie de l'avenir des transports sur le territoire métropolitain. Vous qui avez suivi de près ce débat et ces échanges de par vos fonctions d'élu et de président de TICEO, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à l'issue de ces 3 mois de consultation? Quels sont vos sentiments et réactions à chaud comme ça?
Alors d'abord, ce débat était très important parce qu'il permettait de positionner notre projet au niveau national. Les grands débats, on n'en fait pas dans n'importe quel dossier. On fait un grand débat lorsque le projet en cause est un projet de niveau national. C'est ce qu'a reconnu la Commission nationale du débat public. Ensuite, on a vécu une phase d'échange de 3 mois qui a connu une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. On avait pas mal de réunions territoriales, des réunions publiques, mais là, TICEO, SMTC, mon autorité a travaillé, a participé à plus de 80 réunions. Réunions publiques avec 300-400 personnes, réunions plus confidentielles avec des spécialistes de tel ou tel domaine. Donc ça a été d'une très très grande intensité et je crois que ça a permis à la fois au grand public de dire ce qu'il avait envie de dire et à nous d'établir l'intérêt de ce que nous proposions.
Ces trois ennemis de métro, l'échéance, si tout se passe comme prévu, c'est 2024.
Voilà.
L'ouverture, en tout
l'ouverture
cas.
L'ouverture est fixée à 2024 avec un rétro-planning qui est lourd. Actuellement, on est dans la phase où on termine la modification du plan de déplacement urbain, ce qu'on appelle le PDU. On va avoir l'enquête publique sur le métro qui va se dérouler et toute une série de phases préparatoires qui devraient nous amener jusqu'à fin 2018, début 2019 pour le lancement des travaux eux-mêmes qui auront été précédés par les appels d'offres, bien entendu. Donc c'est vraiment un long cheminement que la création d'un tel projet.
Aujourd'hui, à l'issue de ce débat public, la commission va donc travailler à son rapport, à ses recommandations.
Oui.
Je crois que le rapport doit être donné d'ici février.
Voilà, en février, et nous aurons 3 mois pour répondre à ce rapport. Alors c'est un rapport qui en soi n'est pas contraignant, c'est-à-dire qu'on est libre de le suivre ou pas, mais nous avons l'intention de vraiment l'exploiter parce qu'il y a eu des choses intéressantes qui ont été dites. Et nous allons veiller à ce que beaucoup d'éléments de ce rapport soient pris en compte dans notre projet.
Le trajet de ces trois lignes de métro, est-ce que vous pouvez le rappeler?
Oui.
Alors on sait qu'il va grosso modo du sud-est, la Bège, qui d'ailleurs
oui.
n'est pas dans la métropole, je le rappelle,
oui,
qui est dans le Sicoval, jusqu'à Colomiers, c'est
voilà.
ça?
Alors l'enjeu de cette ligne, ça a été de créer la ligne de l'emploi. Aujourd'hui, on a un très mauvais chiffre à Toulouse. C'est le trajet domicile-travail, où on est une des plus faibles de France, alors qu'on est bon sur les autres ratios. Donc on a voulu travailler ce ratio, et cette ligne, elle ne passe pas n'importe où, elle impacte 48% de l'emploi de la métropole. Alors ça part de la Bège Innopole, ça passe ensuite par Airbus Defence and Space, par Montaudran, de là ça repart vers la Côte Pavée, avec la place de l'Ormeau, ça redescend sur François Verdier. Alors pourquoi par François Verdier? Pour créer un point de jonction avec la ligne B. Un réseau, ça doit être beaucoup d'intermodalité. De là, on repart vers le poumon du réseau toulousain, c'est-à-dire Matabiau, ce qui va devenir vraiment l'élément le plus important. Et on part vers le nord en passant par le Faubourg Rennefois pour aller jusqu'à la station de métro et de train de La Vache. On descend par Fondeire, on passe par les Sept-Deniers. Et de là, on tangente la zone aéroportuaire pour terminer notre route à la gare de Colomiers.
Est-ce qu'il est prévu un arrêt à l'aéroport Toulouse-Blagnac?
Alors c'est un arrêt qui est un arrêt en ce moment à l'étude. Pourquoi? Parce que on considère au niveau du SMTC-TICO qu'il faut que l'opérateur de l'aéroport, l'actionnaire chinois, participe aux engagements sur le financement de cette ligne. Tout le monde est d'accord pour dire que ce sera intéressant de passer à l'aéroport, il n'y a pas de doute. Mais par contre, sur le mode de financement, on est en plein débat.
C'est un des débats qui vont continuer, qui vont se poursuivre
dans les
mois qui viennent.
Oui.
Alors cette troisième ligne de métro, évidemment, c'est le grand projet emblématique là pour les transports oui. dans la métropole dans les années qui viennent. Mais il faut bien comprendre qu'il n'y a pas que ça.
Heureusement,
comme vous le dites. Il y a d'autres projets en cours, notamment l'extension de la ligne A du métro. Alors de quoi s'agit-il?
Alors pour globaliser, avant 2019-2020, on a 900 millions d'investissements qui seront réalisés hors métro. Et un des investissements majeurs que vous évoquez, c'est l'extension de la ligne A. La ligne A connaît aujourd'hui un problème. Elle avait été conçue à l'origine pour faire 130 000 personnes au jour. On pensait que ce serait un chiffre qui serait atteint dans le temps. Dès la semaine d'inauguration de la ligne A, en 1993, le chiffre a été atteint. Et on est aujourd'hui à plus de 230 000 personnes jour sur cet axe-là. Donc on a, j'allais dire, c'est pas péjoratif, explosé tous les compteurs. Et on a aujourd'hui un phénomène qui est un phénomène embêtant de reste à quai. C'est-à-dire que parfois quand on est à Jaurès, par exemple, à 17h, il faut laisser passer 2 rames avant de pouvoir rentrer dans la rame. Voilà. Et donc, pour que l'attractivité du réseau ne baisse pas, il faut qu'on permette au métro de passer, quand il y a des moments de pointe, de 2 rames à 4, 2 par 2, parce que les rames VAL fonctionnent par 2, techniquement. Et ça nous permettra de passer d'une capacité maximale de 230-240 à une capacité de 400 000 personnes jour. On ne va pas faire du 400 000 jour, bien sûr, au début, mais ça nous donne une phase de progression de plusieurs dizaines d'années. Et c'est tout l'enjeu. Donc on va agrandir les stations pour qu'on puisse passer à 52 mètres.
Ça veut dire qu'il va y avoir des travaux d'extension?
Des travaux lourds, on ne s'en rend pas compte, mais il y a quelques stations qui sont trop étroites. Je pense, on n'est pas loin ici de la Patte d'Oie. La Patte d'Oie, ça sera un grand chantier. Il y aura une rue qui sera bloquée pendant plusieurs mois. On aura 3 interruptions de fonctionnement à la ligne A pendant 3 étés, 5 semaines chaque fois, 2017, 2018, 2019. Donc c'est vraiment un gros chantier que l'on veut mener à terme pour inauguration en septembre 2019. Ça donnera beaucoup de fluidité, de capacité nouvelle au réseau.
Bon, c'est bien de prévenir les citoyens là, qui se préparent à ces
désagréments. On mettra en place ce réseau de bus de substitution, bien entendu.
Des solutions alternatives. Alors, en parlant de solutions alternatives au métro et au tramway, il y a les bus quand même. Il y a le réseau Linéo, les bus gris argentés, c'est ça?
Exactement.
Alors, ça aussi, il y a, je crois, de nouvelles lignes qui sont prévues.
Tout à fait. L'idée, c'est quoi? C'est de dire que quand on est sur une zone fortement capacitaire, où il y a beaucoup de monde, si on injecte du flux, de la qualité, on optimise le dispositif. Et donc, il a été décidé de transformer les 10 meilleures lignes du réseau en 10 lignes Linéo. Pour moi, il y en a deux. C'est la 1 et la 2, celle qui part de Balma et qui va au Cédonier, et celle qui va de Colomiers aux Arènes. Ce sont deux lignes que l'on identifie bien, comme vous le dites, avec les livrées gris-argent de ces bus-là, avec à l'intérieur des outils intéressants, des écrans. Enfin, ce sont des bus très modernes. Mais surtout, quand on envoie un bus toutes les 5 minutes, quand on indique à la personne à quel moment va arriver le prochain bus, puisque sur les arrêts il y a de l'information dynamique, les gens se remettent à prendre ce dispositif. Moi, je suis devenu un adepte du 1 qui, sur le centre-ville, permet de gagner beaucoup de temps, et je considère que parfois j'ai plus vite qu'en métro quand je suis sur ce type de ligne. Et pour vous donner un chiffre, la ligne 2 de Linéo 2 a fait 20% de plus depuis septembre. Quant à la ligne 1, elle a été conçue pour faire 16 000 jours. Elle dépasse aujourd'hui 22 000 jours. Donc c'est un système qui marche.
Ça veut dire aussi que les gens sont conscients des bénéfices qu'ils ont à prendre le bus plutôt que le métro.
Quand on leur donne des certitudes de rythme, de capacité, de fréquence, d'information, alors là oui, ça peut marcher.
Autre projet emblématique, on vient de parler de la troisième ligne de métro, mais il y en a un autre qui va, je pense, faire beaucoup pour la renommée de Toulouse en termes de transport, c'est ce fameux projet de téléphérique urbain sud. Et alors là, on a une actualité brûlante, puisque hier, le marché a été donné à, vous allez nous le révéler,
à l'entreprise Poma, qui dirige ce dispositif, entreprise française. Hier, le conseil syndical de Tisséo s'est réuni avec une décision importante, qui est la création d'un téléphérique urbain qui va partir de l'université Paul Sabatier, qui va se connecter sur l'hôpital, le CHU, et qui ira jusqu'à l'Oncopole, et qui à terme sera prolongé des deux bouts, puisque de l'Oncopole on ira jusqu'à Bassocambeau, on se connectera sur la ligne A, et de Paul Sabatier on ira jusqu'à Montaudran, on se connectera sur la troisième ligne de métro. Donc tout ça va se mettre en place. La décision a été votée à l'unanimité du conseil syndical hier mercredi, et c'est vrai que c'est un projet emblématique, parce que les Français n'ont pas l'habitude de ce mode de transport, alors que d'autres pays, je pense à l'Amérique du Sud, utilisent fréquemment ce dispositif. On a des règles aujourd'hui facilitantes. Il y a un décret Ségolène Royal qui est paru il y a peu de temps qui nous facilite la mise en place de ce type d'outils. Il ne faut pas mettre du téléphérique partout, mais il y a certains endroits où c'est intéressant, en particulier quand on doit passer la Garonne et la colline de Pêche-David. C'est sans doute le système le moins cher et le plus optimisé.
J'imagine qu'il y a des gens qui vont vous dire « Oui, mais alors ça, dans le paysage urbain, est-ce que ça n'a pas gâché quand même certaines perspectives, certaines vues ?»
Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense pas, parce que d'abord, ce sera un beau téléphérique. Et ensuite, on passe sur des endroits qui sont finalement assez mixtes, mi-urbains, mi-ruraux, mi-agricoles. On a un passage qui est un peu plus compliqué par le lycée Bellevue, où là, on est en train de travailler avec eux pour justement générer le moins de difficultés possibles par rapport à cet espace vert naturel.
Combien de personnes devraient l'emprunter? Ça a été évalué, je suppose.
Oui, alors, la capacité par heure et de 1500 dans chaque sens, donc c'est du 3000 personnes heure. C'est une capacité qui n'est pas très éloignée de la capacité du tram. Alors ce sont des cabines de 35 places, mais à un rythme qui est un rythme équivalent métro, donc c'est très rapide. Et à partir de là, on arrive à des niveaux de transport tout à fait intéressants. On peut, avec un téléphérique, dépasser le 30 000 jours, ce qui est assez conséquent.
Pour donner une idée aux gens qui auront à le prendre, s'ils ont le vertige, à quelle hauteur on va se trimballer?
Alors, on a encore des dispositifs à mettre en place, mais on a déjà prévu des pylônes qui sont à 60-70 mètres, donc c'est assez haut. L'endroit le plus vertigineux, entre parenthèses, c'est quand on descendra vers l'Oncopole, au-dessus de la Garonne, mais la compensation de cet aspect vertigineux, ce sera la perspective sur Toulouse qui sera absolument remarquable.
Et oui, ça c'est quand même un des aspects positifs de ce genre de moyens de transport.
Peut-être un peu de tourisme grâce à ce dispositif-là.
En tout cas, il y a peut-être des gens, comme il y a des gens qui viennent voir le viaduc, qui s'arrêtent pour le viaduc de Millau, qui viendront s'arrêter pour voir pour emprunter le téléphérique urbain à Toulouse, parce que je crois que c'est le deuxième de France seulement.
Alors, il y en a un qui a été créé et qui a été inauguré il y a peu de temps, c'est celui de Brest. reste, mais c'est pas la même chose parce qu'il traverse une rade. Donc c'est un téléphérique sur l'eau qui permet de relier. Nous, on va être vraiment urbain. 400 mètres pour Brest. Nous, on est sur une portée de l'ordre de 3 km avec 3 stations. C'est un projet beaucoup plus important.
On va parler maintenant de l'ensemble, de l'arborescence générale des transports à Toulouse, parce que ce qui compte quand
bien
même,
sûr,
c'est ça. La question aujourd'hui, c'est avec cette troisième ligne de métro, ce téléphérique urbain, l'extension de la ligne A, les nouvelles lignes du réseau Linéo, est-ce qu'avec tout ça, avec ces diverses ramifications, on va avoir une arborescence qui va permettre de desservir vraiment toutes les zones de la métropole?
C'est tout l'enjeu. On vient d'obtenir une forte aide de l'Europe sur un mot-clé qui est le mot intermodalité. Aujourd'hui, pour qu'un réseau soit efficace, il faut de l'intermodalité. Et donc, on travaille en permanence à ce dispositif-là, en intégrant dans ce que vous dites le fer, le rail, puisque par exemple la région va nous aider à construire notre troisième ligne de métro, parce qu'il y a avec cette troisième ligne 5 connexions avec des gares, et pour la région, l'interconnexion entre le métro et les voies ferrées est essentielle. Et bien on va essayer de reproduire ce modèle d'intermodalité à tout niveau. Les Linéo, par exemple, dans leur concept, doivent croiser 2 à 3 dispositifs de transport lourd. Sur ces lignes Linéo qui sont un peu à l'extérieur des territoires, on rabat tout le réseau secondaire. Donc l'enjeu, c'est vraiment de créer une toile d'araignée complètement cohérente. Il y avait 2 zones qui nous échappaient un petit peu, c'était Colomiers et le Murtin, parce que c'était des réseaux autonomes. On est en train de les intégrer pour les mettre dans cette toile d'araignée.
Ça veut dire qu'il y a un travail aussi qui est fait, une réflexion en tout cas qui est menée avec les autres intercommunalités autour de la métropole.
La structure que je préside, TICO, l'autorité organisatrice des transports, comprend en fait 101 communes et 4 intercommunalités. Il y a Toulouse Métropole, il y a le Sicoval, il y a le Murtin, il y a le SITRP, toute une série de structures. Donc on est vraiment au-delà de la métropole toulousaine classique. Donc on va au fond des territoires et ça se termine par ce qu'on appelle le transport à la demande, des minibus qui ne se déplacent que pour aller chercher des personnes isolées.
Si on remet tout ça dans le contexte général de ce qui s'appelle le PDU, plan de déplacement urbain de la métropole, dont je crois un des buts, c'est de limiter l'usage de la voiture.
Bien sûr.
Est-ce qu'on va y arriver? Et surtout, je pense que c'est la question que se posent beaucoup de citoyens, est-ce qu'on va arriver enfin à désengorger les embouteillages sur le périphérique et les axes principaux de la ville de Toulouse aux heures de pointe?
Ben, on l'espère. J'ai dit tout à l'heure que la troisième ligne de métro, c'était la ligne de l'emploi. Où est-ce que les pics de congestion sont les plus importants? Ben, c'est le matin à 8h et c'est le soir à 17h en semaine. Le week-end, c'est déjà moins contraignant. Donc on est vraiment sur les trajets domicile-travail. L'enjeu, c'est quoi? C'est de mettre en place une alternative efficace pour que les gens n'hésitent plus à quitter leur voiture et à basculer sur le transport en commun.
J'imagine aussi que dans la réflexion, il est intégré tout ce qui est piste cyclable, voie où les gens pourront se déplacer facilement en marchant pour aller d'un point à un autre. Il y a vraiment une réflexion globale qui est menée.
Globale. Je travaille beaucoup avec l'entreprise Airbus en ce moment. Airbus, on travaille sur l'installation de 3-4 stations de métro. On travaille sur le Linéo 2 qui tangente Airbus. Mais on travaille aussi avec eux sur la création d'un réseau cyclable qui permet à toutes les communes qui sont autour d'atteindre les fameuses usines d'Airbus. Donc ça, c'est vraiment une composante importante dans notre réflexion. Et à laquelle je tiens beaucoup, étant personnellement plutôt cycliste qu'automobiliste.
Et sportif. Tout à l'heure, je vais parler de toutes les cordes que vous avez à votre arc. Passionné de rugby et de randonnée dans les Pyrénées. Une chose, on en parle régulièrement dans cette émission, c'est que la population métropolitaine va beaucoup augmenter dans les 10-15 ans qui viennent. Est-ce qu'avec tous ces projets, tout ce dont on vient de parler, on peut avoir, si ce n'est la certitude, en tout cas, à être optimiste quant à la capacité d'absorber l'arrivée de ces nouveaux habitants et tous les déplacements, évidemment, qui vont être liés à leur arrivée.
Mais Toulouse Métropole connaît un chiffre inouï en France. On a 15 000 personnes qui arrivent en moyenne par an à Toulouse. Ça veut dire qu'il faut inventer par jour 50 000 déplacements supplémentaires. Ce qui veut dire qu'en 2025, il faut qu'on ait inventé 500 000 déplacements supplémentaires. Pas uniquement en métro ou en bus, mais il faut qu'au moins la moitié, voire plus, soit pris en charge par ce nouveau réseau. Donc c'est un challenge immense. Et si on présente un projet global intégrant le métro, le bus, le tram, puisqu'on prolongera le tram vers le parc des expos, le téléphérique, tout ça c'est pour essayer de répondre à ce challenge qui est immense, qui est de permettre aux gens de se déplacer. Toulouse, qu'on ait une belle croissance économique, elle serait freinée si on ne travaillait pas les transports.
Et puis, c'est une ville très attractive, donc on veut le rester, hein, même si ça fait un peu peur, évidemment, cette augmentation de population. Ouais. Mais bon, le but, c'est quand même que les gens viennent toujours à Toulouse et soient heureux d'y vivre et de s'y déplacer.
C'est essentiel, c'est essentiel.
Merci beaucoup pour votre venue.
Merci
pour
à vous.
Toutes ces informations et précisions, Jean-Michel Latte. La question des transports, des déplacements est cruciale pour l'avenir de la métropole. On vient de le dire, on ne le redira jamais assez. Nous y sommes confrontés chaque jour à des degrés divers. Raison de plus pour s'intéresser aux projets en cours dans ce domaine et bien s'informer sur leur mise en œuvre. J'espère que cette émission y aura contribué. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez bien sûr consulter le site web de Toulouse Métropole, www.toulouse-métropole.fr, catégorie mission déplacement. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri, à la technique Franck Hilleret. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, passez d'abord de joyeuses fêtes et métropolez-vous bien.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.